Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous. Le président algérien Tebboune a décidé d'envoyer une équipe d'experts dans la wilaya de Médéa, plus précisément ce petit village de Beni Slimane où il y a eu d'importantes inondations en début de semaine. 4 personnes sont décédées. Alors pourtant, des secouristes de la protection civile ont été dépêchés sur place et en nombre. Aussitôt, l'alerte donnée, mais ils n'ont pas pu sauver ces 4 personnes qui sont décédées dans cette région qui est cycliquement sujette à d'importantes inondations. L'objectif de cette mission d'expertise est d'essayer de faire en sorte que le drame ne se reproduise pas. Nous restons en Algérie avec ce rapport du Fonds monétaire international qui estime que l'Algérie, pour couvrir ses dépenses publiques, devrait bénéficier d'un baril de pétrole supérieur à $160. Or, si l'on s'en tient à la moyenne de l'année 2020, le baril de pétrole était aux alentours de $90. C'est à ce prix-là et à ce prix-là seulement que les comptes de l'État pourraient être équilibrés à zéro. Le FMI apporte quelques éléments intéressants concernant la réserve de change, c'est-à-dire le cash qui reste dans les caisses. Le FMI estime que ces réserves de change sont actuellement de 38 000,5 milliards de dollars et que si rien n'est fait, il pourrait descendre à 28 000,9 milliards de dollars d'ici l'année 2022. La Tunisie, face à la pandémie de coronavirus, chaque jour est un nouveau combat. Le pays vient de passer la barre des 11 000 morts. Si l'on s'en tient à ce début de semaine, en moyenne, les journées vont entre 1 200, 1 300, 1 400 nouveaux cas positifs qui sont découverts chaque jour, avec ce chiffre qui fait froid dans le dos, le taux de mortalité lié à la Covid-19 est l'un des plus importants au monde. Avec ce paradoxe, on parle aujourd'hui beaucoup de l'Inde, qui, c'est vrai, dans une situation absolument dramatique. Beaucoup d'organisations, beaucoup d'États, beaucoup de gestes sont faits pour soutenir les Indiens afin de lutter contre la pandémie. Il n'en reste pas moins que l'Inde est soutenue, oui, c'est vrai, mais la Tunisie, elle, qui est beaucoup moins soutenue, elle a un taux de mortalité lié au Covid-19 qui est supérieur à celui de l'Inde, ce qui, bien évidemment, interpelle le nombre d'acteurs du secteur de la santé en Tunisie qui se demandent bien pourquoi tout le monde aide l'Inde alors que la Tunisie, elle, a un taux de mortalité qui est bien supérieur. Un jour, la justice mauritanienne, qui juge actuellement l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz pour sa gestion du pays lorsqu'il était aux affaires. Et puis le lendemain, ce sont ces organisations de la société civile qui organisent des marches pour demander à ce que d'abord cette gestion, on sache exactement ce qu'il en fut. Également, ces acteurs de la société civile demandent la restitution des biens qui ont été spoliés. Rappelons qu'en début de semaine, la presse mauritanienne a eu accès à une liste des biens dont on suspecte qu'ils auraient été spoliés par l'ancien président mauritanien. Il s'agit de biens fonciers, de sommes d'argent en monnaie locale et en monnaie internationale, ainsi que d'entreprises. Libye, c'est une promesse, espérons que celle-ci verra le jour, parce que c'est vrai que ce sera un geste d'apaisement. Le général de division Khaled al-Majdoub, qui combat aux côtés de Khalifa Haftar, sachant que nous sommes actuellement en période de cessez-le-feu, il vient d'annoncer que 193 prisonniers seront libérés d'ici la fin du mois sacré. C'est en tout cas l'annonce qui a été faite. Un premier lot de prisonniers a déjà été libéré. Il reste actuellement environ 1 000-1 200 prisonniers, selon les estimations, qui seraient actuellement retenus dans les prisons de Khalifa Haftar. Les talibans ne lâcheront pas la pression sur les Américains qui sont en train de procéder actuellement à leur retrait. Nous en parlions hier, 141 attaques en l'espace de 24 heures. Il y a toujours beaucoup d'opérations aux abords des secteurs que l'armée américaine abandonne, qu'elle rend aux forces armées nationales afghanes. Cette pression militaire s'accroît alors que les talibans refusent de participer à tout processus de négociation tant que le dernier soldat américain n'aura pas quitté le territoire national afghan. En Irak, on assiste depuis quelques semaines à une reprise des mouvements de contestation qui sont somme toute assez éparses à la fois sur Bagdad mais également en province, dans le gouvernorat de Dihar. Quelques dizaines d'entrepreneurs ainsi que des travailleurs journaliers ont manifesté, ils ont bloqué une route. Ils réclament l'application de la résolution 315 qui avait été prise lors des grandes manifestations de 2019. C'est une résolution qui prévoit un train de mesures en faveur des employés journaliers, alors des prêts, des garanties, des cours de formation, des primes, etc. Cette résolution n'a jamais été mise en application par l'autorité centrale irakienne. Le sens de la manifestation était que l'État doit tenir ses paroles. Attaque, combat, guerre. Notre escale du jour nous mène une fois de plus en Syrie. Cette nuit, il y a eu des frappes aériennes contre des objectifs en Syrie. Ces frappes sont attribuées à l'État israélien qui, pour l'heure, n'a pas encore confirmé. Pour ce qui est de ces frappes aériennes à Hamas, ce sont des entrepôts d'armes et de munitions qui ont été touchés, plus précisément dans les forêts de la région de Deir Ismaël. Et puis, à Latakia, plusieurs autres frappes aériennes ont touché des quartiers généraux militaires, des entrepôts d'armes et de munitions. Depuis le début de cette année 2021, c'est environ une dizaine de raids aériens qui ont été conduits par la force militaire israélienne qui entend maintenir la pression à la fois sur les groupes pro-iraniens qui ont une présence sur le terrain très active. Ces milices pro-iraniennes font le combat auprès des forces de Bachar el-Assad. Nous sommes actuellement en période de campagne électorale et Israël entend bien rappeler qu'il n'entend pas voir pulluler au-delà de ses frontières ces dizaines de groupes pro-iraniens qui véhiculent l'idéologie que l'on sait et qui combattent aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Et ce qu'il y a vraiment de nouveau, en tout cas ce que l'on observe depuis le début de l'année, c'est vraiment la permanence de ces frappes. Avant, c'était vraiment des opérations militaires éparses de façon très précise, très ciblée sur des sites. Et là, aujourd'hui, Israël accentue, dit, laisse entendre que la pression est là. En transparence de cela, on peut bien évidemment entendre le message adressé à la fois à l'Iran. Israël ne veut pas que l'Iran agisse en Syrie comme étant une chasse gardée, entre guillemets. Et puis aussi un message à l'adresse des États-Unis d'Amérique pour rappeler la dangerosité de tout ce qui se déroule actuellement sur le théâtre syrien et que l'élection présidentielle qui va se tenir le 26 mai prochain, elle aura certes un parfum de normalité, mais il n'en reste pas moins qu'il y a toujours sur le terrain de nombreux combats, tant chez les Kurdes que dans la province de Idlib, que sur Deir ez-Zor, que sur Latakia, que sur Hama, que sur Alep ou encore que sur Raqqa, et que partout il y a des milices pro-iraniennes qui représentent pour Israël une menace. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve demain pour de nouvelles colères du monde.